La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute du premier numéro de la mêlée de l'info en 2025. Meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année et meilleurs vœux à mes trois invités du jour. Sandrine Floreus, vice-présidente du conseil départemental de la Haute-Garonne, membre du Parti Socialiste. Lucas Duval, membre du Parti Radical de Gauche, délégué national des jeunes de la LICRA, et Laurent Esquenet-Gox, ex-député, président du MoDem pour le département de la Haute-Garonne. Bienvenue à vous trois et merci d'avoir répondu à mon invitation à débattre ensemble. Je salue les débuts de Laurent Esquenet-Gox dans cette émission. En parlant de vœux, comme c'est la tradition chaque année depuis 1960, le président de la République a présenté les siens aux Français le 31 décembre, lors d'une allocution télévisée. À cette occasion, Emmanuel Macron a dressé un bilan de l'année 2024 et de la situation politique actuelle du pays. Il a notamment fait une sorte de mea culpa concernant sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale et il a annoncé son intention de demander aux citoyens de trancher, je reprends son verbe, sur certains sujets en 2025, sans préciser exactement lesquels et de quelle façon les Français seraient sollicités pour le faire. Qu'avez-vous pensé de son discours sur la forme et sur le fond? Qu'est-ce que vous en avez retenu? Et comment analysez-vous ses intentions de redonner, semble-t-il, la parole aux citoyens dans les mois qui viennent? Sandrine Floreus.
Alors, d'abord, merci de votre invitation. C'est toujours un plaisir d'être là. Je me permets de souhaiter à tous vos auditeurs une excellentissime année 2025, qu'elle soit plus douce et plus stable, peut-être, que celle de 2024. Qu'ai-je pensé du discours d'Emmanuel Macron et de l'ensemble de ses propos? Alors, quitte à faire de peine à personne, mais j'ai quand même beaucoup de mal depuis quelque temps avec les discours du président de la République, dont je respecte éminemment la fonction, mais je trouve qu'il a passablement dévalorisé la parole publique. Alors, on avait déjà eu ce débat il y a quelques mois sur ce sujet déjà, et là, entre le mea culpa sur la dissolution et les annonces de consultation des Français, je me dis, mais quel crédit peut-on encore accorder à cet homme d'État, avec tout le respect, je le répète, que j'ai pour la fonction? On se demandait, est-ce que ce sera un référendum, des référendums? Mais juste, je fais une petite parenthèse, on a eu des états généraux. Ces cahiers de doléances, aujourd'hui, ils sont analysés. Ils sont scrutés, les Français ont été sollicités, ils ont répondu en masse et il y a eu des propositions absolument extraordinaires. Des hommes et des femmes très positifs, très constructifs, qui ont émis des remarques, des propositions pour la France. Pourquoi est-ce qu'on ne continue pas à faire une synthèse de ces cahiers pour les transformer ou en projet de loi ou en proposition de loi dont les députés, parce qu'il y a des députés maintenant, aujourd'hui, on a bien compris qu'il n'y avait pas de majorité parlementaire, donc qui pourraient s'en emparer. Donc, alors qu'est-ce que j'ai pensé, vous l'avez compris, de cette intervention? Je l'ai trouvée lunaire. Voilà, si je trouvais un qualificatif lunaire, j'ai du mal à accorder du crédit à la parole du personnage le plus important de l'État, de celui qui doit nous guider et donner un sens à la vie politique française. Donc, moi, j'ai pas donné de crédit à ce qu'il a dit et honnêtement, ça a pas fait les débats entre Noël et le premier de l'an.
Donc, pour vous, ça s'arrête là? Alors, je vais donner la parole peut-être à la défense, en la personne de Laurent Esquenet-Gox. Bon, vous, comment vous l'avez trouvé, Emmanuel Macron, aussi dans la forme de son intervention, avec ce côté vidéo, là, c'était assez nouveau aussi. Alors, apparemment, je vois Sandrine Floreus qui lève les yeux au ciel. Bon, elle n'a pas trop apprécié. Et puis, bon, sur le fond, bien sûr, il y a eu un certain nombre de propositions. On a surtout retenu cette intention, semble-t-il, cette volonté de redonner la parole aux Français. Bon, reste à voir sur quel sujet et de quelle manière. Mais vous, bon, dans l'ensemble, est-ce que vous comprenez ce que dit Sandrine Floreus ou vous avez plutôt envie, effectivement, comme je le disais, de le défendre?
Oui, bon, bien sûr, je ne m'attendais pas que Sandrine puisse encenser le président de la République. Après, on peut l'aimer ou pas. Bon, je ne suis pas dans cette posture-là. Je dis, le président est tout à fait dans son rôle. C'est un truc un peu académique, hein, les vœux. Hein. Et qui que ce soit, si on regarde tout ce qui a été fait par le passé, c'est jamais forcément des grandes nouveautés. Et, Et là-dessus, bon, il a fait un bilan de 2024 avec le côté positif, le côté négatif. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que les Français, on est quand même un peuple de râleurs et on ne voit pas les côtés positifs. Il y en a quand même quelques-uns, même s'ils sont rares, si on peut s'accorder là-dessus, mais on a quand même eu des Jeux Olympiques extraordinaires qu'on nous avait annoncés comme une catastrophe planétaire. On a eu aussi Notre-Dame, une promesse du président de la République. Tout le monde avait dit que c'était impossible et j'ai fait partie de la mission d'enquête au Parlement sur la reconstruction de Notre-Dame et de côtoyer malheureusement le général Georges Lain, décédé dans les Pyrénées. Et voilà, donc bon, il a mis ça en avant. Et puis après aussi, tout le monde dit, bon, il fait amende honorable. Oui, effectivement, il a dit que la dissolution avait des effets négatifs également sur la stabilité du pays et sur le Parlement. Et puis moi, je trouve que c'est bien qu'il l'ait dit, ou au moins qu'il ait reconnu que, s'il n'a pas dit en tant que tel que c'était une erreur, moi je pense que c'était une erreur.
Et il a l'air de penser que, bon, jusqu'à maintenant, ça a eu des effets négatifs, mais que dans la durée, c'était un peu flou, ça, cette partie-là.
Je ne sais pas. Bon, enfin, moi, je suis une victime collatérale de cette dissolution. Donc, après, mon cas personnel a peu d'importance vis-à-vis de la situation du pays, mais le fait est que ça a créé de l'instabilité. Et moi, pour tout dire, on était dans une majorité relative. On a passé, je ne sais plus combien, 80 textes de loi. Il y a des trucs qui ne sont pas passés, mais bon, des fois dans des ambiances un petit peu houleuses dans l'hémicycle. Mais bon, après tout, ça fonctionnait. Et si on regarde le gouvernement Barnier, on aurait peut-être pu se mettre d'accord sans avoir à dissoudre. Donc, si on regarde les choses, bon. Voilà, donc aujourd'hui, on est dans cette situation-là. Pour moi, bon, oui, un peu la Startup Nation. On a eu cette vidéo au départ. Bon, il voulait avoir un effet positif. Les gens qui ne l'aiment pas ont retenu que c'est comme avant. Et ceux qui l'apprécient ou qui ont une avis neutre diront « bon, c'était l'éveil du président de la République », voilà ce que j'avais à dire.
Pardon, c'est pas d'aimer ou pas aimer le président de la République, c'est de faire un bilan. Vous parliez d'objectivité. Moi, je fais partie au Parti Socialiste des gens les plus modérés. Je fais partie de cette frange au Bureau national qui aime gouverner, qui n'a pas peur de prendre ses responsabilités et qui donc comprend ce que signifie le mot consensus et le mot compromis pour faire la suite de votre propos. Donc il ne s'agit pas d'aimer un homme ou pas un homme, c'est à un moment donné regarder objectivement et factuellement ce que cet homme a fait et les politiques qu'il a mis en œuvre. Et c'est ça moi qui m'interroge, c'est aujourd'hui entre 2017, ce qu'il nous a annoncé, la manière dont il voulait faire de la politique et la réalité des politiques publiques. Voilà, moi je ne suis pas dans la posture, hein. S'il y a des politiques publiques nationales qui sont mises en œuvre, que ça vienne de ma philosophie, de mon parti, je suis capable de le dire. Voilà. Donc il ne s'agit pas d'aimer ou pas aimer Emmanuel Macron, mais il s'agit de constater que le bilan, il est compliqué.
C'est les résultats de sa politique que vous jugez.
Je le crois.
Alors, je ne le disais pas par rapport à vous, je sais très bien votre positionnement politique et moi j'apprécie la partie sociodémocrate, mais on est un petit peu aujourd'hui, c'est tout le temps la faute à Macron si on regarde. Donc bon, effectivement, il a été président pendant 7 ans, mais bon, imaginons qu'on ait eu Mme Le Pen ou M. Mélenchon, il faut imaginer la catastrophe industrielle qu'on aurait eue. Alors tout n'est pas parfait. Moi, ce que j'ai essayé de dire, c'est que de toute façon, pour qu'il y ait du compromis ou du consensus, il faut être deux. La difficulté aujourd'hui, c'est de pouvoir élargir un petit peu cette situation parlementaire que j'ai bien connue à l'Assemblée nationale, pour qu'il y ait des majorités. Et la difficulté, c'est avec qui on peut gouverner. C'est ça la vraie difficulté.
Lucas Duval, vous, votre sentiment après avoir assisté à cette allocution télévisée d'Emmanuel Macron pour les vœux présidentiels 2025.
Alors, pour tout vous dire, déjà bonne année à nos auditeurs. Pour tout vous dire, moi, je ne l'ai pas regardé en direct parce que j'avais autre chose à faire. Voilà.
Voulaient même carrément boycotter.
Voilà, non, moi, je ne fais pas partie de ceux-là. Une fois à tête reposée, hier, j'étais dans mon tram, j'ai regardé.
C'était une allocution plutôt courte par rapport à ce qui se fait habituellement.
Ouais. Non, mais du coup, j'ai pris le temps de regarder quand même. Et en fait, moi, ce qui m'a choqué, mais en même temps pas tant surpris que ça, c'est que Emmanuel Macron a fait du Emmanuel Macron. Il a dit « Oui, bon, je prends ma part. Jusqu'alors, ça n'a pas eu les effets escomptés. »
Voilà, c'est pour ça que je disais qu'il y avait
ça veut dire quoi
que, bon, bah, jusqu'alors... Bah,
mais ça veut dire quoi? En fait, il a eu la bonne idée. Et en fait, juste, on est trop bêtes pour le comprendre. À chaque fois, il y a ce côté où lui, il sait, mais nous ne savons pas. Et c'est ce que je regrette, parce que bon, tous autour de cette table, l'art du compromis, on aimerait pouvoir le mettre en œuvre chaque jour. Et que,
surtout que la situation l'exige.
C'est ça. Mais le problème, c'est qu'avec un président comme celui-ci, qui est très imbu de lui-même, il faut le dire, qui, qui je pense, alors je connais pas son entourage, mais j'ai l'impression que dans son entourage, il écoute pas grand monde, si ce n'est une ou deux personnes. Et d'ailleurs, on l'a vu a priori avec la dissolution.
Ce sont des choses qu'on entend aujourd'hui, mais on n'écouterait plus personne.
Et que du coup, en fait, il voit la situation, il dit bon, je vais leur dire que c'est ma faute, qu'il n'y a pas de souci, mais en même temps, j'en pense pas moins. Je sais que j'ai eu la bonne idée, quoi. Donc bon, c'est
la bonne idée, vous ne m'avez pas compris. Bon.
Voilà, mais c'est du Macron dans vraiment ce qu'il a l'habitude de faire, on va dire. Après, pour ce qui est du reste des vœux, tout ce qui était positif, bon, si je puis me permettre, c'est pas lui qui a rebâti la cathédrale, c'est pas lui qui a fait les Jeux Olympiques.
Il s'était engagé à le faire quand même dans la durée et que ça fonctionne.
Bien sûr, mais je vous imaginais que si une autre personne avait été élue président en 2022 à sa place...
C'est et François Hollande qui a bataillé pour que
pour
les Jeux Olympiques
voilà.
soient à Paris.
Pour les Jeux Olympiques, c'est François Hollande. Mais ce que je veux dire, c'est que si quelqu'un avait été élu à sa place en 2022, je prends les paris, la cathédrale de Notre-Dame de Paris aurait quand même été finie cette année.
Je ne suis pas certain si on tient compte de ce qu'avaient dit les opposants, justement, Emmanuel Macron,
mais les opposants,
que c'était impossible.
Mais
on peut ressortir tous les...
Honnêtement, on pouvait tous le penser que c'était impossible. Ouais. Ils ont mis plus d'un siècle à construire. Dire qu'en 5 ans on va tout reconstruire, ça pouvait paraître pharaonique. Et il faut avouer que les compagnons qui ont œuvré sur ce chantier ont fait un travail extraordinaire. Oui. Mais ce n'est pas forcément Emmanuel Macron qui a fait.
Non, voilà. Mais voyons le côté positif des choses. Alors, pour notre pays, pas simplement
par
rapport
à notre pays, bien sûr.
Je pense qu'effectivement, ce qu'il faut peut-être comprendre, c'est que, bon, je ne sais pas si Emmanuel Macron voulait mettre ça à son crédit, mais c'est montré que notre pays a encore des ressources tout de même, et des savoir-faire, et des compétences.
D'une manière
où
il
moyens.
A dit, il
les
a
moyens,
dit,
et, bah ça, de toute façon, un chantier comme ça, si vous n'avez pas les moyens financiers, c'est pas possible. Donc,
mais de la façon où il a dit, je l'avais promis. Il y a un an, je vous avais dit.
Oui, c'est un de ses engagements. Donc ce côté-là, il est bien obligé de le rappeler.
Oui, mais encore une fois, c'est pas.
Qui ne l'aurait pas rappelé?
Et qui n'aurait pas pris cet engagement?
C'est vrai qu'il n'a pas cité François Hollande pour les Jeux Olympiques.
Bon, voilà. En fait, c'était du Macron dans le verbe, et voilà, rien de surprenant, mais en même temps, tout de décevant, quoi. J'ai envie de dire. On aurait pu s'attendre à autre chose, je pense, à quelque chose de plus consensuel peut-être.
Ouais, alors il y a un point qui a été relevé, je voudrais avoir votre sentiment là-dessus, c'est que Emmanuel Macron n'a pas eu un mot pour nos compatriotes qui sont otages pour certains de nationalité franco-israélienne retenus par le Hamas au Proche-Orient depuis le 7 octobre 2023, ni non plus pour l'écrivain Boualem Sansal qui est détenu actuellement en Algérie. Est-ce que vous trouvez que c'est une faute de ne pas en avoir parlé, que c'est un oubli un peu fâcheux, Sandrine Floreus? C'est anecdotique.
Anecdotique, certainement pas.
Ben c'est pour ça que je pose la question.
Quand on est président de la République d'un pays comme la France, la capacité à être un levier, un acteur majeur des relations internationales et donc de peser, la parole du président de la République française, elle pèse. Et donc, c'est tout sauf anecdotique. Alors, quelle est la raison pour laquelle il n'en a pas parlé, fait pas partie des 2-3 personnes de l'entourage d'Emmanuel Macron?
Il y aurait un discours présidentiel est passé quand même au filtre avant une intervention par les fameux communicants, l'entourage proche, le cabinet. Donc oui, ça peut paraître étonnant.
C'est étonnant au regard du fait que c'est un acteur majeur de la diplomatie internationale. Donc, moi, je ne suis pas macroniste, donc je ne sais pas ce que ça signifie dans la stratégie des relations internationales ou dans la non-stratégie des relations internationales d'Emmanuel Macron.
Mais c'est quelque chose qui vous a choqué tout de même, le fait qu'il n'en parle pas, ça vous a choqué qu'il n'en parle pas? C'est quelque chose que vous avez relevé au moment, à l'instant?
Non, alors comme Lucas, très honnêtement, j'ai même pas pensé à le regarder. Je l'ai regardé après en replay parce que c'est le président de la République et que ça m'intéressait de savoir quel était, s'il y avait des annonces majeur. Mais j'ai trouvé que sur la partie relations internationales, il a été parfois plus prolixe, notamment sur la question de l'Ukraine vis-à-vis de la Russie. Là, c'était étonnant et c'est dommage qu'il n'ait pas pris position parce que la France est un pays qui compte encore dans les relations internationales.
Laurent Esconegox, sur ce point-là.
Choqué non, mais enfin, après, bien sûr, quand on regarde un discours a posteriori, on peut toujours être étonné de ne pas voir certaines choses. Par exemple, il aurait pu effectivement parler de certaines catégories sociales qui ont des difficultés. Il aurait pu parler de nos forces armées qui sont réparties un peu partout autour du monde. Il ne l'a pas fait. Je pense que maintenant, il y a une forme de séquence quand on fait un discours sur une durée et tout ne rentre pas. C'est vrai que c'est dommage de ne pas parler de nos concitoyens qui sont retenus en otage. Ceci dit, faut savoir que ce qui est important, c'est le travail qui est fait de manière plus ou moins confidentielle.
Et c'est peut-être la raison pour laquelle, d'ailleurs, il n'en a pas parlé.
Ça peut-être. Et donc, je sais le travail qui est effectué, notamment par mon ami Jean-Noël Barrot, qui est le ministre des Affaires étrangères, sur ce sujet. Il y a un vrai travail de fond. La France ne laisse jamais tomber ses otages. C'était le cas par le passé, quels que soient les présidents en place. Et je préfère m'attacher au fait que ça travaille derrière et qu'on ne le sait pas, que de faire des grandes déclarations et qu'il ne se passe rien derrière. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue.
Lucas Duval ?
Non, je suis plutôt d'accord. Sûrement, je ne l'avais pas relevé. C'est qu'après, effectivement, quand je l'ai vu écrit à droite à gauche, j'ai fait « Ah oui, c'est vrai ». Donc, c'est dommage, oui. Voilà, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est dommage qu'il ne l'ait pas mentionné. Enfin, surtout que Bohème sans sel, c'est quand même, entre guillemets, plus récent. Et donc dans la mémoire collective, ça aurait pu un peu plus s'imprimer. Enfin, parce que je pense que les gens ont entendu. Je pense malheureusement que si on demande aux commun des mortels s'ils savent combien d'otages sont encore retenus par le Hamas à Gaza, très peu en réalité sont capables de dire qu'il y en a deux. Effectivement, on aurait pu apprécier qu'ils le disent. Je ne pense pas qu'on puisse lui reprocher vraiment formellement qu'il ne l'ait pas dit, quoi.
Oui, d'autant plus qu'on peut imaginer que nos services en sous-main œuvrent actuellement.
Oui. Il peut y avoir des raisons pour lesquelles
obtenir leur libération. Oui, peut-être qu'on lui a dit de ne pas en parler.
Il peut y avoir
des raisons. C'est possible.
Sachant que nos otages, on ne sait pas s'ils sont vivants ou morts.
Absolument.
En Israël, effectivement, Bohem sans sel, on espère qu'il est toujours de ce monde, mais effectivement, on ne peut pas en être certain. Alors, bon, on va revenir sur ce qui était d'ailleurs un peu annoncé avant l'intervention du chef de l'État. On nous annonçait une surprise, il allait y avoir quelque chose de surprenant. Et donc la surprise, il semblerait que ce soit cette phrase qu'il a prononcée à un moment donné. « Je vous demanderai aussi de trancher certains de ces sujets déterminants. » Et là, il parlait de la nécessité de faire des choix pour notre économie, notre sécurité, notre démocratie, nos enfants. Et c'est là que certains ont vu une volonté présidentielle de consulter le peuple, peut-être par voie de référendum, bien que l'entourage présidentiel n'ait pas franchement abondé dans ce sens ensuite. Est-ce que vous croyez en effet qu'Emmanuel Macron a vraiment l'intention d'organiser prochainement un ou des référendums? Et comment vous interprétez cette annonce venant de sa part? Pourquoi ça intervient à ce moment-là? Sandrine Floreux.
Je vais essayer de rester positive. Mais je trouve que il aura tout essayé pour consulter les Français. Ça, au moins, vous avez raison. On ne va pas le lui reprocher. Il a fait des conventions citoyennes pour le climat. Bon, il s'est un peu assis sur les conclusions de ceux qui avaient participé. Il a fait des états généraux. Il essaie des modalités pour créer du dialogue avec les citoyens, ce qu'on appelle la démocratie citoyenne et la démocratie participative. Donc peut-être qu'il ne reste plus finalement que le référendum, la forme la plus institutionnalisée dans notre pays. Mais au-delà de la blague, je trouve que un référendum, je vais vous parler de manière à la fois comme juriste et à la fois aussi parce qu'on est dans un contexte budgétaire extrêmement contraint. Les élections. Est-ce qu'ici on sait combien ont coûté les élections législatives anticipées?
Oui, qui n'étaient pas prévues, donc qui sont dues se rajouter au budget de l'État 2024.
Moi, j'ai interrogé au ministère de l'Intérieur pour savoir. On m'a dit plusieurs millions d'euros. Plusieurs millions d'euros. On est dans un contexte budgétaire contraire. Alors, non pas qu'il ne faille pas solliciter les Français sur des sujets sociétaux majeurs qui engagent la France. Enfin, quand même, c'est aussi un déni de parlementarisme, ça. On a une démocratie représentative qui travaille sur ces sujets, à qui nous déléguons le pouvoir de travailler et de légiférer pour l'avenir de notre pays. Donc, moi, je suis très étonnée, mais vraiment, hein. Pardon, Laurent, mais je le trouve lunaire, ce président. Et ce que disait Lucas sur, à un moment donné, la déconnexion, il a des qualités, incontestablement, et je ne me permettrai pas d'en juger de là où je suis, ça serait inconvenant, mais je le trouve quand même assez lunaire. Et donc, l'idée qu'on pourrait faire un référendum, c'est très encadré, un référendum, juridiquement. C'est une question. Tout à l'heure, on évoquait la question de la fin de vie, mais ce sont des sujets éminemment complexes. Un référendum, ce n'est pas un choix, à un moment donné. donné qui se pose dans un cadre d'urgence pour le pays. Je crois que on a un vrai sujet, c'est de revitaliser et de redorer ce qu'est la vie parlementaire. Il faut redonner du sens au cadre de droit de notre pays. Et l'enjeu aujourd'hui, on l'a tous dit, c'est de trouver les modalités de créer du consensus et du compromis pour sauver la France de la situation économique et sociale dans laquelle elle se trouve. C'est pas hop, allez, tiens, je vais faire un référendum. Il faut être sérieux. Il faut redonner du crédit à la parole politique. Et vraiment, le rôle de notre président de la République, c'est qu'il redonne du crédit, lui, parce qu'il est le premier à la parole politique. Et ça, c'est pour moi, ce n'est pas sérieux. L'histoire du référendum, ce n'est pas sérieux.
Donc ce n'est pas une bonne idée pour vous, si c'est sa véritable intention, quels que soient les sujets abordés, pour vous, ce n'est pas une bonne idée dans le contexte actuel.
Ni sur le plan juridique, ni sur le plan financier.
Il n'a pas parlé de référendum.
Non, alors effectivement, le mot n'a pas été prononcé. Tout le monde a traduit ça parce qu'on imagine mal que ce soit une simple convention citoyenne ou je ne sais quoi d'autre. Donc tout le monde a pensé référendum. Bon, vous pensez que ce n'est pas forcément ça, Laurent?
Non, ce n'est pas forcément ça. Après, je suis presque sur la même ligne concernant la démocratie représentative. Donc il faut faire des choix après sur le fonctionnement de nos institutions. Mais il y a une vraie demande, vous le savez très bien, une vraie demande de participation des citoyens aux décisions. Il faut trouver un juste milieu entre... j'allais utiliser un terme, la pétodière, entre guillemets, ou en tout cas l'anarchie, et de faire participer les gens. Et c'est vrai qu'il y avait eu, vous avez parlé de convention citoyenne, mais il y avait aussi, en dehors des états généraux, il y avait ce qui s'appelait les grands débats. Et ce qu'on peut regretter, c'est, vous l'avez dit, et là-dessus je vous suis aussi, c'est que beaucoup de choses ont été exprimées, et malheureusement tout n'a pas été exploité, ou assez peu. Donc peut-être aussi il faut aller dans ce vivier ou dans cette mine de propositions. Mais moi, je reste quand même persuadé que c'est bien de redonner la parole aux Français. Alors même sur la dissolution, personne n'a compris, mais moi le premier. Mais d'une certaine manière, lui, en tout cas, c'est son argument. Je pense que l'argument, au fond, tient, de redonner la parole aux Français, même si ça a un coût. Même si le référendum peut avoir un coût, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Ceci dit, il n'a pas parlé de référendum. Et ça pourrait être effectivement d'autres choses, mais il faut dire encore que ça aboutisse, pardon, il faut que je reste devant le micro. Que ça aboutisse ensuite à des vraies propositions et qu'effectivement les députés puissent s'en saisir. Faut-il encore qu'il y ait une forme de consensus ou de compromis au sein de l'hémicycle, ce qui est compliqué en ce moment. Et après, ça peut être aussi redonner la parole aux Français sur des sujets, ou sur un sujet, ça pourrait être aussi une nouvelle élection. Et là, on est peut-être dans la politique fiction, mais. On avait ces discussions tout à l'heure. On ne sait pas ce qui se passera en juillet de l'année prochaine.
Lucas Duval, vous croyez que ça pourrait être l'organisation d'un ou deux référendums qu'a nous annoncé Emmanuel Macron?
Et pourquoi pas une présidentielle? Non, je rigole. Ah bah, c'est mon souhait. C'est pas mon souhait du tout. Non, moi en fait,
c'est une autre possibilité. C'est,
il donnerait la parole.
Je
crois que ces mots, le soir même, c'était de la dissolution. C'était j'ai décidé de vous redonner la parole ou quelque chose dans le genre. Bon, en fait, il réutilise un peu le même verbatim. Mais moi, en fait, je me demande si. Là, le fait de dire ça, c'est pas essayer un petit peu de contourner le fait que le Premier ministre ne lui ait pas à sa botte.
Est-ce que c'est pas, je vais vous poser la question à tous les trois, mais vous y arrivez. Ouais. Est-ce que c'est pas une manière de reprendre la main?
C'est ce que je me dis.
L'exécutif reprenne la main, parce que là, il a un petit peu perdu, évidemment.
C'est ce que je me dis. Moi, je me dis un homme qui, pendant 5 ans, de 2017 à 2022, a été habitué à faire tout comme le fait du prince, à s'asseoir complètement sur le Parlement. Et qui, pendant 2 ans, a vécu une situation sûrement qui n'a pas été agréable, mais qui est le jeu de la démocratie, mais qui, pour quelqu'un qui souhaite aller vite, faire des grands projets et révolutionner le monde, ça peut paraître un peu frustrant. Et en fait, là, aujourd'hui, où il voit qu'en fait, il n'a pas la main, il n'a plus la main, il se dit, je vais dire aux gens, oui, je vais vous donner la parole, ça va être bien, vous allez voir. Du coup, les gens se disent, c'est très bien, le président veut nous donner la parole, c'est super, on ne va pas refuser. Et en même temps, il dit, et d'ailleurs, j'ai décidé qu'on allait faire ça, parce qu'il a fait 2-3 annonces au commissariat, à l'enfance, je crois.
Il parle des enfants, de la sécurité,
c'est très bien. Non, mais même, c'est très bien, le haut commissariat à l'enfance, il en a très sûrement besoin. Mais est-ce que c'est au président de la République, encore plus dans la situation politique dans laquelle nous sommes, de faire ce genre d'annonce? Moi, je ne pense pas. Déjà, je pense que le président de la République devrait se cantonner à son rôle qui était celui dans l'esprit de 1958, à savoir de présider le pays, et que le Premier ministre gouverne, comme dans toutes les démocraties parlementaires. que nous connaissons, même en Allemagne, hein, il y a un président de la République, personne ne le connaît. Bon, ben, c'est très bien, c'est le Premier ministre qui gouverne.
Aussi, personne voilà.
Non, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que...
C'est le régime fédéral. Hein.
Non, mais outre ça, ce que je veux dire, c'est que le Premier ministre gouverne, le président de la République préside et a quelques fonctions à côté. Et là, je pense que ce rôle ne lui convient pas et il essaye de reprendre un peu la main. À voir.
Vous pensez que ça peut être ça, vous, Sandrine Floreux, cette annonce, une manière de... Oui, de reprendre la main. Je vais m'adresser... En fait, je vais vous poser une question, moi, directement, et vous allez me répondre à moi directement, en passant par-dessus le Parlement.
Alors moi, je ne suis pas au MoDem, hein, mais il me semble que vous avez un petit lien avec l'actuel Premier ministre qui s'appelle François Bayrou. Il paraît. Et il paraît qu'il a obtenu son poste dans des conditions d'une discussion assez franche et directe.
Enfin, on l'a abordé lors de l'émission précédente.
Donc, c'est peut-être aussi, effectivement, je ne suis pas certaine que dans la psychologie, je partage assez ce que dit Lucas, d'Emmanuel Macron, quand on lui force la main, je ne suis pas certaine que ce soit un homme qui apprécie beaucoup ce type de situation. Et donc, souvent on fait de grandes analyses politiques tous, mais
les choses sont... La psychologie peut donner la réponse, vous voulez dire.
Oh oui, la petite histoire fait souvent la grande, et c'est fort possible que cette annonce de dire « je suis le chef de l'État, je suis le président de la République, je vais décider des grandes questions qu'on va poser aux Français pour son avenir », c'est une façon effectivement de rappeler qu'en France, depuis la Constitution de 58, on a présidentialisé à outrance 62, le régime. Parce que nous sommes dans un régime parlementaire. Quand on regarde l'équilibre de notre constitution, nous y sommes. Mais ici, autour de la table, on sait très bien que les projets de loi sont largement supérieurs aux propositions de loi. Donc, c'est que tout émane du gouvernement et tout émane, en général, du président de la République, de sa volonté. Donc, moi, je pense que c'est tout simplement pour nous rappeler que... C'est moi le chef.
Oui, alors Laurent, est-ce que des Gox, l'hypothèse qu'on vient de formuler, elle est pour vous, elle est plausible ou vous n'y croyez pas?
Oui, elle est plausible dans le sens, enfin, je ne le dirais pas exactement de la même manière, mais de manière peut-être plus policée, mais bon, tout le monde a bien noté effectivement que je suis du MoDem, je suis un vieux militant, mais j'étais même rentré à l'UDF avant, il y a plus de 20 ans. Et on sait qu'effectivement, il y a sans doute des personnalités assez différentes entre François Bayrou et... Le président de la République, moi j'ai envie de dire...
Il y a une génération aussi différente.
Oui, une génération différente. Et puis qui est certainement, effectivement, François Bayrou a vécu d'autres choses. Mais ce qu'il faut voir, c'est que certainement, si on veut le dire différemment, c'est que qu'est-ce qui reste au président de la République ? Il avait une majorité absolue, puis une majorité relative, puis maintenant il n'y a plus de majorité du tout. La difficulté de former les gouvernements, donc si on regarde par rapport à la Constitution, bah, il utilise un peu les moyens qui lui restent. Et donc... À part inaugurer les chrysanthèmes, ça serait peut-être
Il y a de méchants esprits qui disent qu'Emmanuel Macron n'a aujourd'hui pas plus de pouvoir que René Coty à la fin de la 4e République.
Peut-être pas exagérer, mais non, la réalité, c'est que son pouvoir s'est considérablement réduit, que s'il veut exister, il est bien obligé, en tout cas, on comprend, si on veut le dire comme ça, qu'il est obligé de proposer des choses.
Parmi les sujets qui pourraient être abordés lors d'un référendum, les questions qui pourraient être posées, est-ce qu'il pourrait y avoir, par exemple, la proportionnelle, l'instauration de la proportionnelle, Lucas Duval? C'est une question qui pourrait être posée, qui mériterait d'être posée.
Moi, je le souhaite. Hein, je milite depuis le début de mon engagement politique pour qu'il y ait au moins un retour d'une partie de proportionnelle. Parce que je pense que ce système exceptionnel, qu'est le système français au niveau des élections au Parlement, est juste pas. Enfin, il n'a aucun sens et n'est pas censé exister. En tout cas, dans une démocratie qui se veut moderne, selon moi. Donc, pourquoi pas proposer la proportionnelle aux gens ? Avec les risques que ça engendre, bien sûr, mais en même temps, peut-être que ça rapporterait un petit peu de représentation dans la diversité de ce qu'est le peuple français en fait aujourd'hui.
C'est-à-dire que reste à voir quel type de proportionnel, parce que ça.
Bien sûr,
évidemment, c'est important.
Est-ce une question intégrale?
Ou est-ce que c'est au niveau des départements?
Bien sûr, mais ça, il y a sûrement des gens plus intelligents que moi pour le réfléchir.
Il y a des gens qui ont déjà réfléchi.
C'est ça. Moi, honnêtement, je n'ai pas tranché la question entre est-ce que c'est une proportionnelle de liste avec 577 noms ou est-ce que c'est des proportionnelles comme par exemple pour les sénatoriales ou dans les petits départements. Eh bien, il y a deux postes et donc du coup, on reste sur le système actuel à la majorité simple. Ou est-ce que c'est par scrutin proportionnel dans les gros départements où il y a plus de deux postes? Ça, j'avoue que mon cœur balance
si
pas forcément d'un côté ou de l'autre.
Il y a toujours, vous savez, c'est quelle question on pose pour que les gens sachent bien
sachant que les gens doivent répondre oui ou non.
Et voilà.
Ils peuvent pas répondre. Alors moi je veux 50%, moi je veux 40%, moi je veux 30%. Non, il faut répondre oui ou non.
Ouais. En tout cas, ce serait une manière de dire bon bah voilà, on l'instaure parce que c'est ce que veulent les gens. là, ce serait, au moins, ce serait clair. Vous, Sandrine Floreuse.
Alors, deux choses. Est-ce que c'est la priorité des Français aujourd'hui pour les rencontrer tous les jours? Je ne suis pas certaine que ce soit leur sujet, la proportionnelle. D'autre part, alors moi, j'ai beaucoup évolué sur la proportionnelle. Je l'ai connue en 86, puisqu'on a eu une proportionnelle départementale sur les législatives. Et après, peut-être parce que je suis élue sur un scrutin uninominal et que je suis on est en responsabilité directe, moi, j'ai beaucoup évolué et autant j'étais favorable à la proportionnelle, ne serait-ce que par respect des sensibilités politiques dans un pays, autant aujourd'hui, j'en vois les écueils, les effets néfastes. Et les effets néfastes, c'est que souvent, celles et ceux qui sont choisis pour être candidats sont parfois peut-être déconnectés de la réalité. Et on le voit quand on a des élections européennes ou autres où on découvre des noms que personne
parce que
ne
c'est
connaît.
La place qui compte dans,
personne
dans
ne connaît. Donc il faut réfléchir. La proportionnelle sur l'idée, c'est formidable parce qu'elle est respectueuse de l'ensemble des courants politiques qui composent un pays. Tu as raison. Mais à la fois dans les modalités de pratique et pour répondre à la question des
parce que là, la question, c'est est-ce que c'est une question qu'il faut poser lors d'un référendum ?
Non, bien sûr que non. D'abord parce que c'est pas l'urgence. Si on veut envoyer un message aux Français pour leur dire on va vous poser une question qui vous engage, c'est pas celle-là qu'il faut poser. Et je rappelle que des députés et des sénateurs travaillent déjà à des propositions de loi sur ce sujet.
Oui. Alors, sauf que c'est un des chevaux de bataille de François Bayrou depuis longtemps, la proportionnelle. Alors vous, Laurent Esquenet-Gox, est-ce que c'est une question qui peut être posée dans le cadre d'un référendum ?
Je ne sais pas s'il faut trancher ça par un référendum. Moi, en tant qu'ancien législateur, je dirais que c'est plutôt effectivement au Parlement de travailler là-dessus. Parce que ça va être effectivement très compliqué à expliquer. Il y a au moins, comme ça dans ma tête, au moins 8 types de proportionnels. Nous, le MoDem, par exemple, on n'est pas d'accord avec la proportionnelle que voudrait Mme Le Pen. Ça lui donnerait...
à coup sûr, une majorité,
actuellement. Absolue. Donc, par exemple, le MoDem 31 va bientôt faire un débat là-dessus. Mais il y a un fonctionnement allemand qui est intéressant. Où il y a, parce que là où je vous rejoins foncièrement, c'est la représentativité du territoire. Moi, je suis un élu, j'étais un élu de territoire, donc attaché à mon Lauragais natal. Je salue les auditeurs du Lauragais, d'ailleurs, je ne l'ai pas fait au départ.
Il y en a pas mal qui nous écoutent.
Voilà, j'imagine. Et donc, une proportionnelle intégrale, il va y avoir une déconnexion, et donc effectivement, les gens, ils n'auront plus aucun rapport. Moi, quand je croise des gens dans la rue, je les croise au supermarché, quand je fais mes courses, ils m'interpellent sur les sujets, qu'est-ce que j'en pense, de Barnier, de Bayrou, de la dissolution, et au moins, je peux leur répondre, ou même leur expliquer des fois les sujets sur lesquels j'ai travaillé, par le passé. Si vous faites une proportionnelle intégrale, les gens ne savent pas où ils sont, ils sont plus attachés à un territoire, vous n'êtes plus les toucher. Comme déjà aujourd'hui, c'est difficile de croiser des élus. On sait que les élus qu'on croise le plus, en dehors peut-être les conseillers départementaux, c'est les maires, mais les députés, quand ils sont une semaine entière à Paris, ça devient plus compliqué de les croiser. On peut que les croiser le week-end. Donc je pense qu'il faut quelque chose d'un peu mixte. Et ce que proposait le MoDem, en tout cas la réflexion qu'il y a là-dessus, c'est sur le système allemand, il y a un scrutin de liste national. Mais il y a une deuxième possibilité d'être un député directement élu par le territoire.
Oui,
une deuxième chance. Et peut-être que c'est ça qui est intéressant. Je ne suis pas tout d'accord avec la possibilité d'avoir des élus ruraux. On va encore faire la fracture territoriale et rurale où il y a des listes d'un côté et puis les petits départements, ils auront des élus directs. Enfin, je trouve ça incohérent, mais bon, c'est mon point de vue.
Nous allons conclure ce premier débat, mais bon, il est certain que la petite phrase lâchée par Emmanuel Macron concernant sa volonté de demander aux Français de trancher sur certains sujets n'a pas fini de faire parler. On y reviendra sans doute dans les mois à venir. Petite pause musicale dans cette émission. Rendez-vous dans une vingtaine de secondes pour reprendre nos discussions. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
La mêlée de l'info, Éric Dupri.
Retour au direct avec mes trois invités, Sandrine Floreuse, Lucas Duval et Laurent Esquenet-Gox pour notre second débat du jour. Lors de l'annonce de la composition du gouvernement que dirige maintenant François Bayrou, la nomination de Gérald Darmanin au ministère de la Justice, dans la mesure où Bruno Retailleau était maintenu à l'intérieur, est certainement celle qui a suscité le plus de réactions. À droite, les tenants d'une politique sécuritaire et judiciaire plus ferme semblent mettre beaucoup d'espoir dans la constitution de ce qu'il faut bien appeler un duo. En revanche, sur la gauche de l'échiquier politique et aussi au syndicat de la magistrature, c'est l'inquiétude qui domine. Personnellement, est-ce que vous voyez en effet un véritable tandem justice-intérieur dans les nominations de Gérald Darmanin et Bruno Retailleau ? Et est-ce que vous attendez à ce qu'ils œuvrent de concert sur une même ligne de fermeté, indispensable, diront certains, compte tenu des problèmes sécuritaires que connaît notre pays et d'un système judiciaire dont d'aucuns estiment qu'il fonctionne mal en France ? Lucas Duval.
Vaste sujet. Bon, déjà, effectivement, quand on... moi, quand j'ai vu la nomination de Darmanin et de Retailleau, je me suis dit, bon, déjà que Retailleau nous faisait regretter Darmanin, maintenant, on a Retailleau et Darmanin.
Donc, les deux pour le prix d'un, non,
ouais,
c'est pas ça.
C'est ça, c'est ce que je me suis dit. D'un côté, on a un ministre de l'Intérieur qui reprend aisément les discours, les thèses, les propositions, les projets, tout ce qu'on veut, du Rassemblement National. Enfin, parfois, on se demande même, qu'est-ce qu'il fait chez les Républicains. Mais bon, la fonction fait qu'on lui doit du respect, donc respectons-le. Et ensuite, on a un Gérald Darmanin qui a été ministre de l'Intérieur et qui se retrouve aujourd'hui garde des Sceaux. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée du monde quand on sait le parcours qu'il a fait au sein du ministère de l'Intérieur. Sûrement que les personnes les plus à droite qui nous écoutent seront effectivement très contentes d'avoir ce duo-là pour qu'on puisse serrer la vis, comme on dit. Je suis pas tout à fait convaincu qu'avoir l'ex-premier flic de France à la justice aide vraiment à ce qu'en France nous ayons une justice qui soit vraiment performante. Mais qui par contre viennent aider à réparer ce qui a été fait et qui viennent faire en sorte que les personnes puissent être réhabilitées une fois avoir été en prison. Quand on voit que la première proposition de Darmanin, c'est on va faire, c'est quoi, des mettre en cellule super protégée les 100 plus gros narcotrafiquants.
Ouais, ce qui serait des têtes de réseau. Narcotrafic.
Bon, je ne suis pas convaincu que ça fasse vraiment avancer la chose. Je suis même convaincu du contraire. Ça va peut-être permettre à des plus petits trafiquants qui disaient « je vais attendre que le père meure », de prendre la place du père et que finalement, ça ne réglera rien du tout. Au contraire, peut-être qu'il faudrait réfléchir les choses différemment, je pense.
Laurent Esquenet-Gox, alors vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce duo Retailleau, Darmanin à l'intérieur et à la justice?
Bon, moi, je connais un peu Gérald Darmanin.
Si tant est que ce soit un duo.
Retailleau, je ne le connais pas du tout. Après, je vois, bien évidemment, j'ai vu son parcours. Je ne suis pas naïf de ce côté-là. Mais bon, ce qu'on peut reconnaître d'une manière ou d'une autre, c'est que quand même Gérald Darmanin, même si certains le voient peut-être positionné très à droite, il a fait le job pour la sécurité des Français. On est passé à travers plusieurs événements. Et je pense que le boulot a été fait. Alors, effectivement, ça peut paraître étrange qu'il passe de premier flic à... à garde des Sceaux. Bon, moi, en France, on a tendance à juger les gens sur des a priori, souvent, et puis je pense qu'il faut laisser le temps aux gens, effectivement, de s'installer. Qu'en a-t-on dit de Éric Dupond-Moretti quand il était arrivé, lui qui était un avocat brillant et qui, soi-disant, détestait les juges, ou l'inverse, les juges détestant Éric Dupond-Moretti? Si on regarde son bilan, il n'est quand même pas mauvais, même si ça part de très très loin, mais si on regarde les 11 milliards consacrés à la justice... Le rehaussement des salaires des juges et également les nombreux employés pour la justice qui ont été recrutés. Alors, c'est peut-être pas encore suffisant, mais enfin, c'est inédit, quoi. Donc bon, tout le monde aurait pu penser que ce tribun est un peu l'électron libre, et puis pas du tout politique d'ailleurs au départ, allait exploser en vol. Et donc ça s'est bien passé. D'ailleurs, un des gardes des Sceaux qui est resté plus longtemps, il est resté 4 ans. Donc laissons peut-être ce duo se former. Bon, on peut penser ce qu'on veut. J'en dirai pas beaucoup plus sur M. Retailleau, je ne le connais pas. Et mes avis là-dessus sont pas très tranchés. Mais laissons faire. Après, peut-être que ce duo, il peut fonctionner. Hein. On le verra bien. Il y a eu par le passé des duos qui pouvaient paraître un peu étranges. Et voilà.
Bah, beaucoup de gens ne le trouvent pas forcément étrange, au contraire, il y en a certains qui le trouvent très cohérent. Alors, je ne sais pas, vous, Sandrine Floreux, je ne suis pas certain que vous voyez d'un très bon œil l'arrivée de Gérald Darmanin à la justice, en plus de la renomination de Bruno Retailleau à l'intérieur.
Moi, je suis toujours étonnée par les grands effets d'annonce. Après, les duos, c'est pas mon sujet, en fait, la personnalisation. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les premières déclarations de Gérald Darmanin. Je vais peut-être vous étonner, mais j'ai partagé un grand nombre de ses déclarations d'intention. Je m'intéresse beaucoup, de par ma délégation égalité des droits des femmes et violences faites aux femmes, de la partie justice, et je regarde les dysfonctionnements terrifiants aujourd'hui et les impacts que ça a de la justice dans la société française sur la maltraitance, la construction des femmes victimes de violences, sur les enfants qui sont dans des univers. Et je me dis qu'il y a un très très gros travail à faire en faveur des victimes, et c'est un des premiers mots de Gérald Darmanin. Alors, j'ai conscience que nous ne partageons pas tout à fait les mêmes valeurs et que je pense que sa stratégie n'est pas tout à fait celle qui serait la même. Oui, je pense qu'on n'a pas tout à fait les mêmes objectifs. Pour autant, je pense que c'est un vrai sujet, le ministère de la Justice, aujourd'hui. Et que forcément, c'est lié aux questions de sentiment de sécurité de la population française. Aujourd'hui, moi, je ne rencontre pas une personne qui me parle de son malaise et de son mal-être vis-à-vis des incivilités du quotidien. Et donc, c'est un vrai sujet. Si on veut demain que le Rassemblement national ne soit pas aux portes du pouvoir parce qu'il y est et n'accède pas au pouvoir, c'est un vrai sujet qui doit faire consensus. Et donc, je crois que vraiment, les premiers mots du ministre aujourd'hui de la Justice, ils sont intéressants sur les victimes. Ils redonnent du sens. Et on a perdu du sens dans l'application des peines. D'ailleurs, elles sont rarement appliquées. Discuter avec des policiers, discuter avec des gendarmes qui vous disent, voilà, on a les preuves et on relâche immédiatement. Je crois que, voilà, on a un vrai travail à faire sur ce qu'est l'état de droit, sur le respect des peines, sur, voilà, ce que veut dire une sanction. Et après, il y a tout un travail lié aussi à la prévention et à notre système aussi judiciaire sur ce que veut dire la réhabilitation. Et c'est bien que tu l'aies précisé. Mais aujourd'hui, la justice, de mon point de vue, elle a vraiment besoin d'un coup de tonnerre. Et ce qu'a dit le nouveau ministre, c'est pas si inintéressant que ça.
Ce qu'a dit aussi Gérald Darmanin aujourd'hui ou hier, c'est que la justice manque de moyens. Il faut plus de moyens à la justice. Vous êtes d'accord avec lui, sans doute ? J'imagine. Après, la question, c'est quels moyens on peut donner supplémentaires, en plus, dans un pays où il faut trouver des pistes d'économie.
Il faut donner des moyens à la police, à la gendarmerie aussi.
Le problème, c'est que les dossiers ne sont pas traités.
Mais on est bien d'accord. Ils ne sont pas traités. Et donc, on ne donne plus du
sens. D'ailleurs, il n'y a pas les effectifs quoi, pour les traiter.
On ne donne plus du sens aux mots sanctions et on ne donne plus du sens à l'état de droit. C'est en ça que la perte de sens dans notre société et ce sentiment permanent où on peut tout faire, tout dire, les incivilités du quotidien, c'est pas les meurtres dont on parle, c'est du quotidien. Et c'est ça qui nourrit le populisme et le Rassemblement national. Donc c'est un vrai sujet. S'il s'y attaque et s'il réussit, eh bien bravo.
Alors, Lucas Duval, est-ce que vous êtes d'accord avec Sandrine Floreux sur le fait que les premières déclarations de Gérald Darmanin vont dans le bon sens en termes d'objectifs, mais est-ce que vous pensez que c'est plutôt de la com, des effets d'annonce? Ou est-ce que vous pensez qu'il va vraiment s'attaquer à ces problèmes-là? Bon, encore faut-il qu'il en ait le temps, parce qu'on ne sait pas combien de temps le gouvernement Bayrou va durer, évidemment.
Le plus possible.
C'est ça. Non, je suis absolument d'accord avec Sandrine Floreus de dire qu'il faut que ce soit un sujet qui soit partagé par tous, et notamment à gauche, là où c'est tabou. Il faut le dire, parler de justice, c'est censé être de droite. Non, la gauche doit et peut parler de justice. Et je pense qu'avec Sandrine, on partage
ça
absolument...
Ça paraît un peu incompréhensible que la gauche ne soit pas pour la justice, mais bon, bref...
Mais même de justice, et même de sécurité, et surtout de sécurité, parce que c'est, en fait, la sécurité, c'est le premier droit de tout
le monde. C'est le premier
droit,
effectivement, du citoyen, notamment des plus modestes.
C'est ça. Et donc, la gauche, au lieu de parler parfois de sujets qui touchent 0,0001% des gens, peut-être qu'il faut parler des sujets qui touchent une majorité des gens. Et la sécurité,
et dans leur quotidien.
Et la sécurité, c'est un des sujets primordiaux. Maintenant, dans les premières annonces, effectivement, oui, il y a du bien, mais encore une fois, il faut que ça soit appliqué. Vous l'avez dit, il y a besoin de moyens, mais la France a besoin de faire des économies aussi. Ou alors de faire rentrer plus d'argent. On est encore dans le débat du budget.
Oui,
mais en tout cas, voilà, bien sûr qu'il faut plus de moyens et bien sûr qu'on va tous s'entendre sur ça. Ensuite, par rapport au tandem Retailleau-Darmanin, moi, j'ai du mal avec le fait que donc Gérald Darmanin, qui, je pense, a plutôt fait le job sur la défense des valeurs républicaines et de la laïcité, avec sa loi sur le renforcement des valeurs républicaines en 2022, je crois. Donc ça, sur ça, je pense qu'il a plutôt fait le job. Mais le fait qu'il ne reprenne pas son collègue de Vendée, Monsieur Retailleau, qui fait des outrances tous les jours à la laïcité, enfin, pour moi, ça me semble complètement impensable. Surtout que maintenant, en tant que ministre de la Justice, il est censé un peu faire respecter ça. Il devrait peut-être reprendre un petit peu son collègue sur ce point-là. Donc oui, effectivement, il y a des bonnes intentions. Après, comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est ça ?
Oui, absolument. vous faites bien de le redire sur Radio Présence. Alors, sur le tandem, je reviens, parce que c'est un peu la question tout de même, sur le fonctionnement de ce tandem Darmanin-Retailleau. Il y a certains aussi, les observateurs, qui ont noté que ce sont deux hommes qui pourraient avoir de grandes ambitions pour la prochaine présidentielle de 2027, si tant est qu'on attend 2027 pour avoir une présidentielle. Est-ce que vous pensez que ça pourrait nuire à leur relation et même au fonctionnement de ce tandem qui vient d'être formé, Laurent Esquenet-Gox? Ou ça, c'est une question pour vous, c'est les médias qui montent ça en épingle, c'est pas le sujet?
Non, on peut en parler, mais on imagine que deux ministres aussi importants, avec deux ministères régaliens aussi importants, ce ne sont pas que des questions de personnes ou de chamaillerie ou d'égout. Après, ils ont chacun certainement des ambitions, mais qui n'en a pas. Je pense même autour de cette table, on pourrait tous en avoir en dehors de vous, peut-être. ou une trajectoire politique. Donc, mais ben, moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, Monsieur Retailleau, je ne le connais pas particulièrement. Je connais Gérald Darmanin. Je pense qu'il y a quand même des gens qui ont le sens de l'État ou le sens de l'intérêt général. Donc, à la tête
vous de... leur faites confiance de ce point de vue?
Non, mais je n'ai pas d'a priori.
Il n'y a pas de raison d'en douter.
Je n'ai pas d'a priori. Moi, ce que je rejoins Sandrine là-dessus, c'est que quand on parle avec les gens dans la rue, quand on parle avec nos concitoyens, eux, ils ne comprennent pas la non-application des peines. François Bayrou l'a dit quand il était invité sur BFM TV, c'est un des sujets qu'il a déployé. Si nos politiques, le Premier ministre ou le garde des Sceaux en parlent, c'est que c'est un sujet qui touche les Français, certainement. Ça leur a été remonté aussi que c'était un sujet important. Et donc, tant qu'on n'aura pas dans ce pays des peines qui soient appliquées rapidement, on retrouve des fois des gens qui ont été condamnés qui reviennent narguer leurs victimes juste derrière. C'est pas possible. Donc, et puis on parlait tout à l'heure vous aviez parlé tout à l'heure un peu rapidement aussi des têtes de réseau de trafic de drogue, mais bon, à un moment donné, dans une ville comme Marseille, voire même à l'extérieur, on a quand même un groupe de mafieux, la DZ Mafia, qui veut diriger une ville, quoi. Donc là, il faut s'y attaquer de plein pied. Alors je sais pas quels seront les moyens qui seront déployés, est-ce que ça sera efficace ou pas, mais en tout cas, on peut pas baisser les bras.
Ça, c'est sûr.
Ça, c'est pas possible. Voilà.
Oui. Sandrine Floreus, les ambitions personnelles de Gérald Darmanin et Bruno Retailleau, ça vous inquiète ou pour vous, c'est pas un sujet d'inquiétude plus qu'un autre?
C'est la vie politique. Il y a des gens formidables qui se rêvent tous les matins un roi du monde. C'est voilà, en se rasant ou pas. Mais
si c'est une femme, elle peut aussi rêver. Hein.
Oui. D'ailleurs, c'est une très bonne remarque. Il y a des femmes de politique, de droite comme de gauche, de grande qualité. Est-ce que ça va nuire à la politique? Moi, ce qui m'inquiéterait le plus, au-delà des déclarations qui m'ont intéressée de Gérald Darmanin, c'est que effectivement on soit dans une surenchère populiste et qu'on se retrouve
la course, hein.
Et qu'on se retrouve voilà sur un positionnement politique tellement plus populiste que le RN pour demain être le candidat. Ça serait vraiment très déceptif. Ça serait un effet déceptif parce que ce qu'a dit Gérald Darmanin sur les premières déclarations d'intention sur son ministère, moi ça m'a intéressé. Et je crois que celui qui gagnera la prochaine présidentielle devra donner du crédit à nouveau à la parole publique qui en a pris un sacré coup, pardon.
Ça.
Oui, alors il y a aussi une chose, la nomination de Gérald Darmanin, ça n'a pas été très bien accueilli, notamment par le syndicat de la magistrature, dont on dit qu'il est très puissant, bon bref.
Vous avez vu une fois bien accueillir les nominations?
Oui, c'est vrai, mais alors je pense que Gérald Darmanin peut-être encore plus qu'une autre.
Moretti, ça avait été quelque chose.
Est-ce que ça peut être une difficulté pour Gérald Darmanin pour imposer ses vues?
S'il fait comme il avait fait au ministère de l'Intérieur, à savoir écouter le syndicat, j'ai plus le nom, le syndicat
Alliance,
ouais. Bon, ça devrait bien se passer alors.
Oui.
Non? Il a répondu à toutes les demandes d'Alliance, il me semble.
Donc s'il fait
pareil avec le syndicat de la magistrature, tout devrait bien se passer. Bon, malheureusement, je pense pas que ça va se passer comme ça. Bon, franchement, je mets un joker là-dessus. C'est le jeu, les syndicats qui mettent la pression sur les politiques. C'est la vie publique, quoi, on va dire.
Laurent Esquenegox, vous voyez ça comme un problème possible pour Gérald Darmanin ou il saura faire avec ?
Non, je pense qu'on est face à des gens intelligents. Après, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont leur trajectoire, mais bon, il ne faudrait pas effectivement que ce soit la course à l'échalote avec des mesures, effectivement. Je ne pense pas, parce que si on veut apparaître comme un homme d'État, il faut aussi apparaître comme responsable. Alors peut-être que M. Retailleau, des fois, dérape.
Il a proposé une nouvelle loi immigration.
Oui. Non, mais il y en a déjà une, il faudrait déjà commencer par l'appliquer. On l'a déjà votée.
Elle est là, la course à l'échalote.
On fait ça de beaucoup de lois. Ouais. On dit, c'est pas peine de faire une nouvelle loi, il y en a qui existent.
Je pense que là, pour moi, ce n'est pas une question de nom. En tout cas, les Français, ils ne sont pas sur des questions de nom. Ils sont des demandes de l'efficacité.
Pour être efficace, il faut quand même que ça fonctionne bien entre le ministre et puis. Les gens qui travaillent avec lui.
On est plus sur un sujet de buzz, je pense, que la réalité du terrain. Et on verra après dans l'application. Après, je peux me tromper. Je crois que chacun d'entre nous regardera de manière attentive ce qui va se faire.
Vous êtes d'accord, Sandrine Floreus, avec ce qui vient d'être dit là, sur la question que j'ai posée ?
Oui, on va regarder de manière attentive, concrètement, les actes qui seront posés. Effectivement, je rejoins mes deux collègues. La course à l'échalote serait dramatique.
Oui.
Serait dramatique.
Une chose est sûre, en tout cas, le fonctionnement du duo Darmanin-Retailleau va être observé de très près, je pense, dans les mois qui viennent, si toutefois le gouvernement Bayrou s'inscrit dans la durée, ce qui est une autre histoire.
Souhaitons-le pour la France.
Oui, alors nous avons quelques minutes encore pour la rubrique coup de gueule, coup de cœur. Donc je vais vous demander vos coups de gueule ou votre coup de cœur du moment, ou coup de chapeau aussi, ça peut être ça. Laurent Esquenegox, à qui vous souhaitez ou rendre hommage ou en tout cas peut-être adresser un petit coup sur les doigts?
Alors ça ne sera pas de la politique française, mais bon, c'est le sujet qui a retenu mon attention. C'est le président élu Trump qui s'en prend à l'immigration illégale au sujet de l'attentat en Louisiane, Bourbon Street, alors que le terroriste, visiblement, est né aux États-Unis et en plus a fait 15 ans dans l'armée américaine. On pourrait difficilement le prendre pour un immigré illégal franchissant le Mexique à travers les barbelés.
Ah donc c'est ça, votre coup de gueule. En France, tout va bien. Bon.
Non, mais c'est ce qui a attiré mon attention.
Sandrine Floreus.
Alors moi, un coup de chapeau à Gisèle Pellicot pour avoir accepté de briser le silence et d'avoir accepté que son procès ne se fasse pas à huis clos, parce que je crois que c'est un procès fondateur, vraiment fondateur sur la question des viols collectifs, du consentement. Il faut une dose de courage absolument incroyable pour accepter de se dévoiler en général, mais de se dévoiler dans ce qu'elle a vécu, dans sa chair. Elle a beaucoup parlé avec ses enfants, ses petits-enfants, parce que ça a des répercussions
familiales, bien sûr. Oui.
Et c'est extraordinaire. Son courage, il transcende. Et elle a parlé au nom de toutes les femmes qui vivent des violences. Et je trouve que c'est extraordinaire ce qu'elle a fait. Le jugement aussi, il est.
Oui, j'allais vous poser la question.
Pas que voilà, le jugement l'est, c'est un fait marquant et fondateur sur les violences faites aux femmes et voilà, et ça donne moi la justice me pose souvent question et là je me suis dit allez, il y a une porte qui s'ouvre, il y a un peu d'espoir et il faut le saisir parce que ça va changer la relation des femmes et des hommes de manière, je le crois, très positif en responsabilisant les uns et les autres.
Mais surtout que c'est un sujet que vous traitez
c'est mon quotidien
départemental, vous connaissez de très très près. Alors Lucas Duval, vous, qu'est-ce que vous avez réservé? Un coup de cœur, un coup de gueule?
Alors si vous me permettez un très court coup de cœur et après une information plutôt. Donc coup de cœur, c'est l'édito de Caroline Fourest qui souhaite à la France pour 2025 d'apprendre le compromis. Voilà, donc je pense que c'est un souhait.
C'est édito dans Franc Tireur.
Dans Franc Tireur, oui.
On peut vous rejoindre.
Précisons-le pour ceux
donc
qui
voilà, donc nous donc on souhaite ça à la France. Et sinon, une petite information. Et je ne sais pas si je peux la classer dans coup de cœur ou coup de gueule. Je pense peut-être plus coup de gueule, mais donc par rapport donc aux 10 ans des attentats de janvier et de l'hypercachère et de Montrouge, donc de janvier 2015. Donc dont on commémorera le triste anniversaire des 10 ans.
On ne se rend pas compte que 10 ans sont passés. Quoi.
C'est ça, il y a 10 ans qui sont passés et le problème c'est qu'on se dit 10 ans pour quoi ? 10 ans pour rien, 10 ans pour pire peut-être. quand on voit certaines choses. Et donc juste informer vos auditeurs, informer les co-débatteurs qu'à Toulouse, donc la LICRA, le Printemps républicain et le Comité laïcité république décident, comme chaque année en réalité, d'organiser un rassemblement citoyen place du Salin le 11 janvier à 15h30. Mais également, là pour marquer un peu les 10 ans, on propose donc à Blagnac, pour être pas à Toulouse, on l'a fait exprès, et à l'Isle-Jourdain, pour être un peu plus en ruralité, la projection du film Dieu peut se défendre tout seul, qui en fait reprend les plaidoiries de Richard Malka, l'avocat de Charlie Hebdo, pour les procès des attentats, donc le 16 à Blagnac, le 16 janvier à 20h au Rex, et le 17 janvier à l'Olympia à l'Isle-Jourdain.
Voilà, alors on en parlera lors de la prochaine émission, évidemment, là, de la commémoration des 10 ans des attentats de janvier 2015. Quand vous voyez les réactions qu'il y a eu après l'enlèvement et la détention de Boualem Sansal en Algérie, à gauche notamment,
c'est pour ça que je dis,
vous n'êtes pas un petit peu dépité quand même?
C'est pour ça que je dis 10 ans pour rien ou 10 ans pour pire. Parce que j'ai l'impression que la gauche est devenue pire que ce qu'elle était. Enfin, en tout cas, ceux qui se revendiquent de gauche, pas la gauche.
Alors, faut peut-être pas mettre.
Une
certaine gauche. Non, mais ceux qui se revendiquent de gauche, parce que les gens de gauche, comme Sandrine et moi, on n'a pas bougé d'un iota. En tout cas, les gens qui se revendiquent de gauche, je pense, font pire qu'il y a 10 ans. Et quand je vois les commentaires sous l'annonce du coup de ces rassemblements sur les réseaux sociaux, je me dis, on a fait du chemin, mais peut-être pas dans le bon sens.
Certains de mes ex-collègues, notamment.
Sandrine Fleureux, oui. Ça vous inquiète aussi, l'évolution en 10 ans, là, le discours à gauche qui, chez certains, n'a pas vraiment évolué.
Alors, le discours à gauche, attention, soyons très précis, d'une certaine gauche qui, c'est pour faire le lien avec votre question précédente, qui est dans de l'électoralisme. On a très très bien compris la stratégie de certains à gauche pour aller chercher des voix pour demain se voir président de la République. Je crois que c'est terriblement grave de tenir ce type de propos. De s'asseoir sur l'universalisme et la laïcité.
On en reparlera la semaine prochaine. Cette 176e année de l'info est terminée. Merci beaucoup à vous trois d'en avoir été les invités. Merci aussi à Coraline Camembrac à la réalisation. Podcast disponible et téléchargeable dès maintenant. Merci à nos fidèles auditeurs. Très bonne année à tous encore une fois. Et à la semaine prochaine.
À bientôt.